Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La droite du Seigneur accomplit des prodiges, la droite du Seigneur m'a exalté, alléluia. Mes très chers frères, en ce quatrième dimanche après Pâques, l'Église ne cesse, et déjà depuis plusieurs dimanches, ne cesse de nous instruire sur, en ce temps après Pâques, sur notre vie, après nous avoir instruits sur les mystères de notre rédemption, l'Église ne cesse de nous instruire sur ce que nous devons faire pour y correspondre. Car rien ne servirait d'avoir entendu l'Évangile nous être prêché si ce n'est pas pour obéir à Dieu qui nous l'a fait prêcher. Alors, comment rendre témoignage à l'Évangile que nous avons reçu, mes très chers frères? C'est le thème de ce sermon d'aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Dans un premier point, nous verrons, comment rendre témoignage à la vérité par notre vie selon Dieu et selon sa parole. Et nous évoquerons quelques marques de la présence de l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Dans un deuxième point, nous verrons comment on s'imagine témoigner de l'Évangile, et alors qu'on n'agit que par la chair et par la concupiscence, et nous verrons aussi certaines marques qui montrent que le Saint-Esprit est absent du chrétien. Et nous terminerons brièvement par quelques conseils pour persévérer avec l'aide de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que nous dirons tout à l'heure dans l'offertoire. Acclamez le Seigneur, terre entière, chantez la gloire de son nom, venez, écoutez, et je vous ferai le récit, vous tous qui craignez Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. Alléluia. Dans ce quatrième dimanche, disais-je, il y a des enseignements pour le témoignage à rendre à l'Évangile que nous avons reçu, auquel nous avons cru et dans lequel nous persévérons par la grâce de Dieu. Mes très chers frères, il y a plusieurs manières de parler et d'agir. Il y a une manière de parler et d'agir qui procède de l'Écriture sainte, donc du Saint-Esprit, et il y en a une autre qui ne procède que de la concupiscence. Parlons, dans notre premier point, de la première. Première est la bonne manière de parler et d'agir. Le témoignage rendu à la puissance de Dieu, mes très chers frères, se manifeste par la station dans l'ordre selon son état. Si vous deviez quitter ce sermon et vous souvenir d'une seule chose, eh bien, c'est que le témoignage rendu à la puissance de Dieu se manifeste par la station dans l'ordre selon notre état, selon son état. Si nous comprenons cela, nous avons quasiment tout compris et nous n'avons plus besoin que de compléments d'enseignement. Si nous n'avons pas compris cela, alors nous pourrions, comme le font beaucoup, ingurgiter des bibliothèques entières sans jamais... Je ne dis pas comprendre, parce que comprendre, ce n'est pas très difficile, il suffit d'avoir un cerveau qui fonctionne relativement normalement. Mais sans jamais être chrétien, sans jamais être catholique, sans jamais appartenir à l'Église. Voyez-vous, station dans l'ordre selon son état. Ce devoir de rendre témoignage à la vérité, c'est Saint-Pierre qui nous le donne dans une autre épître, lorsqu'il nous dit « soyez toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous, rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Ce n'est pas quelque chose qui est lié aux circonstances de la fin des temps, dans lesquelles nous sommes, depuis un moment d'ailleurs, que de rendre témoignage à l'Évangile. Chacun a toujours rendu témoignage à l'Évangile selon son état, selon sa condition, selon aussi l'opportunité et selon le Saint-Esprit. Mais il se trouve, mes très chers frères, qu'aujourd'hui, alors que bien des gens s'imaginent rendre témoignage à la vérité, alors que, si j'ose dire, la vérité ne leur a rien demandé, eh bien, il nous faut savoir exactement ce que nous devons faire. La bonne manière de rendre témoignage à l'Évangile, donc de témoigner de notre christianisme, c'est que ce témoignage se fonde sur la connaissance, comme dit l'Épître, que tout don, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. On ne peut rendre témoignage que de ce que l'on connaît. Il y a quelques dimanches, vous vous souvenez, nous avions développé le thème que nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire à peu près la même chose. Nous ne pouvons témoigner que de ce que nous connaissons. Sinon, nous sommes des faux témoins. Si lors d'un procès, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai tout vu » alors qu'il n'a rien vu, c'est un faux témoin et qui est même passible de sanctions légales. Donc, si nous devons témoigner de l'espérance qui est en nous, si nous devons témoigner de l'Évangile, nous devons avant tout connaître cet évangile. Or, il se trouve, mes très chers frères, que connaître l'évangile, c'est-à-dire l'avoir réellement reçu, l'avoir réellement entendu, c'est confesser, c'est savoir que toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, c'est-à-dire de Dieu le Père. Si nous savons cela, et encore une fois, peut-être que vous allez vous étonner en disant « mais ce sont des choses évidentes, c'est évident que tout bien, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu ». Alors, je suis très content que pour vous que vous le sachiez, mais il se trouve que l'envers ou le complément de cette connaissance, c'est que l'homme n'est que corruption et incapable d'aucun bien par lui-même. Et là, évidemment, ça devient plus difficile. On dit « oui, mais il faut pas exagérer, il y a quand même, l'homme est quand même capable de faire le bien, au moins selon les critères de la nature ». Alors, on va dire, oui, d'accord, mais alors pourquoi est-ce que Saint Jacques dit « toute grâce excellente, tout don parfait, etc. » Oui, c'est parce qu'on parle de la surnature, on parle de ce qui vient de Dieu, on parle de la part de Dieu, et il faut aussi prendre en compte la part de l'homme. Alors, mes très chers frères, si vous croyez cela, si vous le croyez sincèrement, et surtout si vous persévérez dans cette sorte de croyance, eh bien, mes très chers frères, sachez que vous n'êtes pas chrétien. Tout simplement parce que, lorsque, d'après tous les commentateurs, lorsque Saint Jacques nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu et de lui seul, cela signifie que cela vient et cela est donné, cela vient de Dieu et cela est donné à un homme qui en est incapable. Si Dieu pouvait nous donner des biens et si l'homme pouvait tirer de son propre fond des biens, il n'aurait pas entièrement besoin de Dieu. Il aurait besoin de Dieu, disons, comme d'un complément. Et malheureusement, la plupart du temps, Dieu est perçu comme un complément. Il y a la nature, nous y reviendrons. Et ensuite, il y a Dieu qui vient nous donner quelque chose de plus que la nature, sachant que la nature, c'est déjà pas mal. Voyez-vous, mes très chers frères, celui qui doit rendre témoignage à l'Évangile, et nous verrons comment dans un instant, pratiquement, celui qui doit rendre témoignage à l'Évangile doit connaître que cet Évangile ne lui laisse en lui-même aucune possibilité de trouver quelque part dans son propre fond quelque chose de bon. Alors vous allez dire, mais Dieu a créé l'homme à son image, etc. Oui, mais nous ne sommes plus dans l'état d'innocence. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais nous ne sommes plus dans l'état d'innocence. Nous sommes après la chute, nous sommes des pauvres enfants d'Ève exilés dans cette vallée de larmes. Ce n'est plus nous ne sommes plus comme au commencement. C'est pour cela que nous devons, le seul homme, en quelque sorte, la seule condition humaine qui nous intéresse pratiquement, c'est la condition qui est la nôtre lorsque nous naissons. À partir du moment où nous naissons, même où nous sommes conscients en réalité. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, les œuvres sans la charité, nous l'avons dit, mais nous le répétons, les œuvres bonnes, les œuvres, il y a des œuvres mauvaises, il y a des œuvres qui sont matériellement bonnes, mais ces œuvres sans la charité ne sont que néant, et nous rajoutons, néant digne de la colère de Dieu. Différemment des œuvres qui sont des péchés, à strictement parler, mais il se trouve que quelle est la différence entre un péché et une bonne œuvre faite sans charité? C'est que les deux excluent la charité. Donc, puisqu'il n'y a que la charité qui plaise à Dieu, le péché sera puni parce qu'il excite la colère de Dieu, et la bonne œuvre sans charité sera elle-même aussi, sous un certain rapport, punie parce qu'elle excite la colère de Dieu, puisqu'elle est dépourvue de charité. Alors, encore une fois, ça peut paraître étrange, et des fois, il y a des gens qui me font des remarques en disant « c'est difficile à entendre que des gens, certes, qui ne sont pas chrétiens, qui font le bien, font des choses qui méritent la colère de Dieu. » Quelqu'un, je vous pose la question, quelqu'un qui aurait fait le bien toute sa vie, mais qui ne serait pas chrétien, quelqu'un qui aurait fait le bien toute sa vie, mais qui, en supposant qu'il soit baptisé, qui n'aurait jamais fait ce bien pour l'amour de Dieu, pourrait-il aller au ciel? La réponse est non. Parce que si la réponse devait être oui, alors à quoi sert-il d'être chrétien, puisqu'on va au ciel quand même? et sans la charité, qui est l'essence, la quintessence du christianisme et de la promesse que le christianisme nous fait de nous donner cette chose qui ne peut se trouver, cette réalité, qui ne peut, cette force qui ne peut se trouver qu'en son sein, au sein de l'Église. Donc, mes très chers frères, si quelqu'un passait toute sa vie à faire le bien, mais s'il n'avait pas la charité, cela ne lui sert de rien. Et vous remarquez que ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc voyez, mes très chers frères, avant de vouloir rendre témoignage à l'Évangile, connaissons cet Évangile qui ne nous laisse aucune possibilité de nous imaginer que nous pouvons tirer du bien de nous-mêmes, un quelconque bien de nous-mêmes, c'est-à-dire un bien qui soit réellement un bien qui plaise à Dieu, car il n'y a que le bien qui vient de Dieu qui plaise à Dieu, Dieu ne récompensant que ses propres dons. Donc avant de vouloir porter témoignage à l'Évangile et témoigner de notre foi, nous devons avoir au fond de nous-mêmes, et d'une façon très chrétienne, très saine, une sainte défiance de nous-mêmes, qui ne soit que l'envers de notre confiance en Dieu. Alors vous allez dire, il faut des fois une certaine dose de confiance en soi, etc. Je ne parle pas de cela, ça c'est un certain équilibre naturel dont on a besoin, effectivement, quelqu'un qui serait... Mais quelqu'un qui serait complètement, qui douterait de lui-même, etc., n'en aimerait pas plus Dieu, non. Il faut, quand on aime Dieu, ne pas s'aimer soi-même. Il faut, quand on a confiance en Dieu, ne pas avoir confiance en soi. Vous voyez, on n'est pas ici en train de faire des cours de psychanalyse, on est en train de dire quel doit être l'arrière-plan mental vis-à-vis de lui-même du chrétien qui doit rendre témoignage à l'Évangile qu'il a reçu. Sainte défiance de soi envers de la confiance de Dieu. L'Évangile produit la crainte de Dieu par la connaissance de soi-même. Si l'Évangile nous dit que nous serons jugés d'après nos œuvres, puisque notre Seigneur jugera les vivants et les morts en fonction des œuvres qu'ils auront accomplies, et si d'autre part il nous dit que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, de même que le sarment par lui-même ne peut porter de fruits s'il n'est pas hanté à la vigne, de même, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur. Nous l'avons entendu plusieurs fois dans les évangiles des martyrs de cette semaine. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, si l'évangile nous dit que nous serons jugés d'après nos œuvres, mais que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, cela produit en nous une sainte crainte de Dieu, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas tirer de nous-mêmes les bonnes œuvres, la force de faire les bonnes œuvres, sans lesquelles nul ne pourra être sauvé. Dans l'Évangile, notre Seigneur dit ces paroles qui sont très expliquées par les commentateurs, mais qui restent relativement mystérieuses. Néanmoins, ce sont des paroles qui sont comme une pierre de touche. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Lorsque nous devons rendre témoignage à l'Évangile, et c'est notre devoir en tant que chrétiens, nous participons à l'œuvre du Saint-Esprit, tout d'abord en ce qu'elle nous est appliquée à nous-mêmes, qui ne faisons plus partie du monde. Il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Brièvement, qu'est-ce que ça signifie ? Touchant le péché, nous disent les commentateurs, c'est-à-dire que le christianisme est la seule religion qui enseigne la corruption générale des fils d'Adam. Il n'y a que le christianisme qui dit « tous en Adam, tous ont péché, tous sont morts ». Il n'y a que le christianisme qui nous enseigne la doctrine du péché originel. Bien sûr, on peut la trouver un peu par-ci par-là, sous forme de traces, par-ci par-là, parce que c'est tellement une évidence que ça serait étonnant que les hommes ne s'en rendent pas compte. Néanmoins, lorsque le christianisme nous dit que nous sommes coupables du péché originel, il fait beaucoup plus que de reconnaître, comme plusieurs autres philosophies, voire religions, que l'homme a un mauvais côté ou que l'homme a une tendance au mal. Non seulement l'homme a une tendance au mal, mais le christianisme nous enseigne qu'il l'a hérité de son premier père, qui a péché dans le paradis terrestre, et que ses seuls péchés privent la personne, de même non encore née, de la vision béatifique, c'est-à-dire qu'elle le rend coupable devant Dieu d'un péché qui le prive de la gloire éternelle. Alors on a beau entortiller les choses en disant que ceux qui meurent avant l'âge de raison, etc., vont dans ce sort de limbes. Les limbes sont une invention néo-pélagienne et semi-pélagienne. Les limbes, si on fait exception du sens qui signifie le lieu, le séjour des morts où étaient les anciens saints dans l'Ancien Testament, avant que notre Seigneur en vienne sortir, les limbes sont une invention des pélagiens en réalité. Les limbes sont, c'est une sorte de tiers lieu qui n'est ni le ciel ni l'enfer. À la rigueur, si on appelle limbe une partie de l'enfer, parce qu'il y a divers degrés dans l'enfer, je veux bien. C'est plutôt traditionnel de le dire. Mais si on imagine que c'est un tiers-lieu, alors véritablement, c'est une invention hérétique, pélagienne, et sont hérétiques ceux qui s'imaginent que, comme certains mélanistes, par exemple, s'imaginent que les bébés qui sont dans les limbes, eh bien, peupleront à un certain moment la terre, de telle sorte qu'ils auront une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Quand on meurt, on ne revient pas, mes très chers frères. Le christianisme est la seule religion qui nous dit que lorsque nous naissons enfants de colère, corrompus, pécheurs. Dans certaines religions, on vous dit que vous laissez naturellement dans telle religion, en islam par exemple, mais que l'éducation de vos parents, le contexte, etc., fait que vous êtes éloigné de la vérité. Alors, dis donc, si nous devions naître dans la religion, si lorsque nous naissons, nous devions avoir une religion, ça serait la religion de la concupiscence, la religion de l'adoration du diable, la religion des enfants de colère, la religion des damnés. Ça ne fait pas très envie. Le christianisme ne nous flatte pas, voyez-vous, mes très chers frères. Le christianisme nous dit que nous naissons pécheurs. Nous ne pouvons pas rendre témoignage à l'évangile, c'est-à-dire à la puissance de Dieu manifestée dans notre vie, si nous ne nous convaincons pas que nous sommes pécheurs, et si nous ne professons pas la corruption générale des fils d'Adam. Ensuite, ça c'est l'arrière-plan, toujours l'arrière-plan de ceux qui doivent témoigner de l'Évangile. Ensuite, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, convaincra le monde touchant la justice. Que signifie la justice ici, disent les commentateurs, c'est la réparation de la nature du nouvel Adam, de l'homme par le nouvel Adam seul. C'est-à-dire que, bien sûr que le christianisme ne nous laisse pas avec la doctrine du péché originel. Il n'a pas fait parcourir la terre en tous sens par les apôtres et leurs envoyés et leurs successeurs pour dire aux hommes « Vous êtes morts en Adam, et c'est fini ». Non, vous êtes morts en Adam, mais de même que le péché et la mort est venu par un seul, de même la justice vient par un seul, c'est-à-dire le nouvel Adam, le Christ. Nous ne pouvons pas rendre témoignage à l'Évangile si nous imaginons qu'il y a une autre source de justice et de justification que le précieux sang du nouvel Adam, de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous imaginons que l'homme peut être sauvé et justifié devant Dieu par les œuvres de la loi naturelle, à l'exclusion de la connaissance salvifique du seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, nous prêchons un nouvel évangile et nous sommes en dehors de l'Église. Quand bien même un ange de lumière, ou un successeur des apôtres, ou un apôtre même, nous enseignerait un autre évangile que celui que nous avons reçu, alors qu'il soit anathème. La justice, le Saint-Esprit convainc le monde de justice dans le sens où il dit « il n'y a pas de justice, c'est-à-dire de réconciliation avec Dieu, sans la médiation unique du Fils éternel de Dieu, fait chair pour nous les hommes et notre salut ». Et ensuite, le paraclet, lorsqu'il viendra, convaincra le monde touchant le jugement. Touchant le jugement, c'est-à-dire la condamnation des pécheurs au jugement dernier. On ne peut se convertir, mes très chers frères, pour d'autres motifs que ces trois convictions que le Saint-Esprit apporte au monde. Conviction de péché, conviction de justice, conviction de jugement. On ne peut se convertir pour d'autres motifs, sinon c'est une conversion illusoire, ou alors au mieux une amorce de conversion, soyons positifs. Mais c'est une conversion illusoire. Si je me suis, je le répète, Mais c'est extrêmement important, car c'est ça qui fait le fond de commerce d'à peu près toutes les officines néo-catholiques, qu'elles soient tradies, nucistes ou vraiment en union avec François totalement. C'est que convertissez-vous car vous avez besoin du christianisme pour ceci ou pour cela. Non, convertissez-vous car vous êtes enfant de la colère. Convertissez-vous car vous allez en enfer si vous persévérez dans cela. Alors vous allez dire, oui évidemment, donc ça veut dire qu'on a besoin du christianisme. Oui, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que on leur dit, à gauche on dit, convertissez-vous comme ceci, vous connaîtrez l'amour de Dieu. Et puis de toute façon, si vous ne pouvez pas vous convertir, de toute façon Dieu vous sauvera à la fin. Mais enfin, ça serait mieux de se convertir avant, ça serait dommage de perdre du temps, etc. Et puis à droite, à l'extrême droite, on dit, convertissez-vous, c'est ainsi que vous rendrez à la France sa grandeur. La France ne peut pas être la France, et puis le reste aussi, hein. Il y en a qui pensent à l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique. Donc tout cela ne peut pas être restauré si les gens ne se convertissent pas, parce que ça sera la participation de tous les convertis à la restauration, etc., qui aura lieu. Et si vous n'êtes pas catholique, alors il vous manque les moyens, les outils fondamentaux pour travailler à la restauration. Alors donc du coup on dit, voilà, j'aime mon pays, je veux que mon pays soit grand à nouveau, hein, comme c'est original, et donc du coup je suis devenu catholique pour pouvoir faire que mon pays soit grand à nouveau. Ah, la bonne heure, c'est très bien. Si vous vous êtes converti pour ces motifs-là, maître et cher frère, vous n'êtes pas converti tout simplement. Vous êtes dans la concupiscence, nous y viendrons. Mais de toute façon, nous ne reparlerons pas ça, c'est tellement stupide. La seule chose, malheureusement, maître Chaffray, il y a des gens qui non seulement se convertissent, sont convertis par ce discours-là, mais en plus que l'on filme, qu'on met devant une caméra, que l'on filme, proférant ces niaiseries et ces contre-vérités à la face de l'univers, pour leur plus grande honte, malheureusement, que Dieu les convertisse, bien entendu, et je prie pour qu'ils se convertissent, sincèrement, mais leur plus grande honte, à la face de l'univers, alors que ce n'est pas du tout l'Évangile. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Dieu viendra, le Christ, plus précisément, le Fils éternel de Dieu, vrai Dieu, viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu, à la fin, de telle sorte que tous ceux qui n'auront pas été trouvés vivantes en lui seront condamnés à l'enfer éternel. La religion n'est pas un supplément d'âme. La religion n'est pas une amélioration de la nature. Voyez-vous, mes très chers frères, ce témoignage que nous devons porter, ce témoignage à l'Évangile que nous devons porter, c'est un témoignage porté par le converti, c'est-à-dire celui qui a été converti à l'Évangile. Ce témoignage porté par le converti est essentiellement un témoignage contre lui-même. « Regardez ce que je ne suis plus !» dirait-il s'il devait dire quelque chose. Nous y viendrons. C'est un témoignage porté contre lui-même. Si l'Évangile est vrai, alors conformément à la promesse de Dieu, si l'Évangile est vrai, alors moi-même, je ne suis plus ce que j'étais. Si je suis converti et que je suis encore ce que j'étais, alors, ça ne veut pas dire que l'Évangile est faux, mais ça veut dire que je ne vis pas par l'Évangile. Voyez-vous, mes très chers frères. Et Dieu merci, notre témoignage est très minime, puisque, comme dit notre Saint-Père Augustin, lorsqu'il s'est converti, il a vu tous ceux qui vivaient d'une façon surnaturelle, tous ceux qui triomphaient de la chair, tous ceux qui triomphaient du vieil homme, et il ne parlait même pas des martyrs, etc., il parlait des gens qui vivaient dans la continence et dans la sainteté. Ces gens-là, tous ces gens-là, cette multitude de gens qui ont été transformés par la grâce de Dieu, eh bien, étaient suffisantes pour le convaincre que, véritablement, l'Évangile existait. Maintenant, l'Évangile porte-t-il ces fruits-là dans ma vie, à moi? C'est une question que nous devons nous poser, de telle sorte que, avant d'aller porter témoignage à l'Évangile, nous devons nous demander si réellement l'Évangile a un impact dans notre vie, pour m'exprimer d'une façon un peu moderne. Si véritablement l'Évangile est mise en pratique par moi-même, si je bénéficie de la puissance de l'Évangile. Alors, ça ne veut pas dire que, quelque pécheur que je puisse être, je dois m'abstenir de porter, de témoigner, de rendre témoignage à l'Évangile, mais ça veut dire que très rapidement, ceux qui me verront vivre écouteront le discours orthodoxe qui sera le mien, Deo gratias, mais me voyant vivre autrement, ils diront, ou bien ils se moquent de nous parce qu'il nous prêche quelque chose ou il témoigne de quelque chose qu'il ne vit pas, ou bien il ment dans le sens où il croit le vivre et il n'est pas différent de nous, donc l'Évangile est faux. Faisons très attention. Le témoignage que nous portons à l'Évangile est essentiellement un témoignage porté contre nous-mêmes, contre l'ancien nous-mêmes. C'est un témoignage porté contre le néant des forces de la nature. C'est un témoignage porté contre l'arrogance de la prétention de plaire à Dieu par ses propres forces. Ce témoignage se manifeste par la rectification de la vie. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'autre témoignage à apporter à l'Évangile que, celui, que la station dans l'ordre selon son état. Tout le reste n'est que du blabla qui ne sert à rien, sinon à discréditer l'Évangile. Ce témoignage se manifeste par la rectification de la vie, par la louange à la grâce de Dieu, portée à la grâce de Dieu, et aussi par le silence des passions. C'est-à-dire que si ma passion, c'est de prêcher l'Évangile, si j'ose dire, je suis mal parti. Parce que, justement, toute passion cessant, l'Évangile porte ses fruits. D'ailleurs, l'Évangile éteint les passions. Si vous trouvez un chrétien passionné par la nouvelle religion qui est la sienne, c'est un chrétien qui n'a pas vraiment compris, pour dire les choses doucement et paisiblement, c'est un chrétien qui n'a pas vraiment compris ni où il est, ni ce qu'il est, ni ce qu'est la grâce de Dieu, ni ce qu'est, non plus la corruption insondable, l'abîme de corruption qu'est le cœur humain. Lorsque, dans le verset alléluiatique que nous avons lu tout à l'heure, nous disons « La droite du Seigneur accomplit des prodiges, la droite du Seigneur m'a exalté. » La droite du Seigneur, qui est-ce ? C'est le Verbe puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul fait des merveilles. C'est pour cela qu'il est dit « La droite du Seigneur accomplit des prodiges ». Quels sont ces prodiges ? Eh bien, en particulier, celui de triompher de la mauvaise volonté. Nous en avons parlé précédemment. Il n'y a rien de plus opposé à Dieu que la mauvaise volonté du libre arbitre tel qu'il est, tel qu'il se forme dans l'homme, tel qu'il est possédé par l'homme naturel. Il faut que Dieu surmonte cette mauvaise volonté par une force toute puissante à laquelle rien ne résiste. C'est pour cela que la droite du Seigneur a accompli des prodiges. Et le psaume dit « La droite du Seigneur m'a exalté ». Et c'est là où nous nous apercevons que, mes très chers frères, le témoignage porté à l'Évangile n'est même pas un témoignage porté à ce que Dieu a fait pour moi, petit individu lambda. C'est un témoignage porté à celui que je suis devenu, si j'ose dire, avec une sainte audace, à celui dont je suis devenu membre, c'est-à-dire au Christ. Lorsque je dis « la droite du Seigneur a accompli des prodiges », je témoigne que je ne suis plus ce que j'étais. Lorsque je dis « la droite du Seigneur m'a exalté », je parle du Christ en moi et moi en lui. Si le sarment n'est pas dans la vigne, si vous n'êtes pas en moi et moi en vous, alors vous ne pouvez rien faire. Le contraire, voyez-vous, c'est ici, c'est le contraire de l'orgueil. On ne peut pas être fier d'être chrétien. On ne peut être que, je vais le dire d'une façon forte, mais vous comprendrez, on ne peut pas être fier d'être chrétien, on ne peut être que participant de la nature divine. Or, celui qui est participant de la nature divine n'a plus de bouche, de moi, de soi-même, de soi au sens séparatif du terme. Il est tout dans le Christ. Bien sûr, certes, nous gardons toujours notre nature individuelle, bien, ne vous inquiétez pas. Mais dans le Christ, in Christo, voyez-vous ? Donc, ceux qui sont encouragés à apporter témoignage à ce que Dieu a fait pour eux, etc., alors c'est très bien, de temps en temps, ça doit se faire, je ne dis pas le contraire. Mais ceux qui, en quelque sorte, se font les professionnels du témoignage, en réalité, ce sont des gens, on le voit dans tous les milieux où on encourage les gens à prendre un micro et à donner leur témoignage, comme on dit. C'est qu'en fait, il parle de moi. C'est moi. Et plus. Alors, des fois, il faut bien parler un peu de soi pour situer sur qui l'Évangile a agi, et sur qui la grâce de Dieu s'est abattue, bien entendu. Mais il se trouve que la plupart du temps, quand on est habitué à donner son témoignage et à le redonner, ça devient une conférence sur moi. Moi et Dieu, certes. Dieu et moi, dans le meilleur des cas, mais toujours moi. Voyez, vous, mes très chers frères. attention à cette manie toute moderne qu'il y a de donner des témoignages. Autrefois, il fallait extirper, comme sous la menace de je ne dis pas d'excommunication, mais enfin en tout cas une menace très forte, une menace d'éteindre, une menace de désobéissance en quelque sorte, il fallait extirper des pénitents le récit de leur vie. Aujourd'hui, c'est tout juste, si on est encore dégoulinant des eaux du baptême, j'ai déjà dit l'expression, mais c'est toujours drôle à dire, on est encore dégoulinant des eaux du baptême, que déjà on prend des micros, qu'on fait des conférences, qu'on organise, qu'on a déjà trois livres qui sont publiés, et dont l'encre est à peine sèche, alors l'encre est plus sèche que l'eau du baptême. Mes très chers frères, ce n'est pas la manière de témoigner. La droite du Seigneur a fait des merveilles, le droite du Seigneur m'a exalté. Le Christ est exalté en moi, et moi, je me tais en lui. Pourquoi me tais-je ? Parce que la reconnaissance envers Dieu, Dieu source unique de tout bienfait, est une reconnaissance qui se manifeste par une obéissance. Et nul ne peut être plus éloquent qu'un enfant de Dieu qui obéit à son Père céleste. Toutes les autres formes de témoignage sont au mieux dangereuses et au pire contre-productives et même des attestations d'une mauvaise conversion. Dans l'offertoire, il est dit, et vous pourriez me l'objecter, il est dit « Venez, écoutez, je vous ferai le récit de tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. » Alors, est-ce que nous avons perdu 10 minutes à dire qu'il ne fallait pas faire le récit de tout ce que le Seigneur a fait à notre âme ? Non. Voyez-vous, mes très chers frères, le meilleur récit que nous puissions faire, c'est la démonstration par les actes, par nos actions, de la foi opérant par la charité. C'est cela le récit de tout ce que le Seigneur a fait. Lorsque quelqu'un sort d'une école d'une école d'ingénieur ou une école de métier, une école où on apprend des choses, une école de métier, et qu'il vous dit, voilà, laissez-moi vous raconter, j'ai fait des cours, j'ai fait ceci, je sais faire cela, je sais faire telle ou telle chose, je sais assembler des pièces, je sais faire... On va dire, montrez-nous. Et si cette personne continue à dire, voilà, j'ai fait un métier, voilà, j'ai passé des examens, j'ai regardé mon professeur, etc. On va dire, montrez-nous ce que vous avez appris. Si cette personne qui vient de réussir son examen commence sous vos yeux à tailler, à couper, à assembler, à donner forme à quelque chose sans dire mot, on dit cette personne est véritablement savante. Voyez-vous ? Elle est savante par les œuvres qu'elle manifeste. Elle est savante parce qu'elle est dite savante parce qu'elle témoigne qu'elle sait faire. Or, si quelqu'un se contente de dire qu'il sait faire et qu'il ne le manifeste pas, il y a toujours un doute. Et la plupart du temps, les beaux parleurs, évidemment, sont ceux qui n'ont aucune œuvre. Alors, voyez-vous, mes très chers frères, lorsque le psalmiste, c'est-à-dire notre bouche unique, pour parler comme notre Saint-Père, dit « Venez, écoutez, je vous ferai le récit de tout ce que le Seigneur a fait à mon âme », cela signifie que nous devons être dans le silence de l'obéissance persévérante. Le silence de l'obéissance persévérante est le meilleur discours que nous puissions opposer à l'ignorance des impies dont parlait saint Paul dimanche dernier, si vous vous souvenez. Parlait saint Pierre, pardon, dimanche dernier. Et cette manière juste, qui plaît à Dieu, de rendre témoignage à l'Évangile et à sa puissance, s'oppose à la deuxième manière de parler et d'agir dont nous allons parler maintenant brièvement, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu, c'est notre deuxième point. Reprenons ce que notre Seigneur dit du ministère du Saint-Esprit. Lorsque le Paraclet viendra, il convaincra le monde, touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Le témoignage faux, celui qui procède de la concupiscence, dément le Saint-Esprit en tout point. Premièrement, en ce qui concerne le péché, il convaincra le monde, touchant le péché. Le témoignage faux, du chrétien fier de l'être, etc., commence toujours par une relativisation de la doctrine du péché originel. Et quand je dis relativisation de la doctrine du péché originel, je ne dis pas qu'il suffit de confesser que nous croyons au péché originel pour que cela soit suffisant. on en est venu, après des siècles de rabotage et de mitigation, à croire au péché originel, sachant que c'est un dogme quasiment vidé de tout contenu. Le péché, nous sommes convaincus du péché, comme dit notre Seigneur, dans la mesure où nous savons que non seulement l'homme a un ancêtre qui a péché, mais l'homme a péché en son ancêtre, tout homme a péché en son ancêtre, et qu'il n'y a pas une seule personne ici-bas qui ait été sans être touchée par le péché originel, à l'exception évidemment de la Très Sainte Vierge Marie, qui a été préservée du péché originel en vertu des mérites de son fils. Mais s'il n'y avait pas eu les mérites de son fils, elle aurait été touchée par le péché originel, parce qu'elle est une vraie fille d'Adam. Il y a une autre façon de démentir le Saint-Esprit à propos du péché, c'est quand on fait une distinction entre la nature et la grâce qui donne à la nature une autonomie et une perfection telle qu'elle la rend indépendante de la grâce. C'est-à-dire que la grâce devient dans cette perspective, alors ça c'est la perspective néotomiste, si j'ose dire, c'est la plaie de... C'est ça qui fait, en réalité, cette perspective-là, dont certains sont si fiers, c'est ça qui fait l'impuissance totale et radicale des chrétiens, des catholiques, depuis, 100 ans, 200, mettons 150 ans, allez, voyons-le. On n'a jamais été aussi clair sur la distinction entre nature et grâce, on n'a jamais été aussi impuissant. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que c'est la faute au ceci et cela ? Je pense que c'est plus simple de dire que si on mange quelque chose et que l'on est faible, avant de penser qu'on est empoisonné, qu'on est envoûté, etc., peut-être que il faut peut-être voir ce qu'on aime manger et voir si ce qu'on aime manger n'est pas simplement la source de notre intoxication. Voyez-vous, avant de penser que nos ennemis sont là en train de nous jouer des mauvais tours. La distinction entre la nature et la grâce qui donne à la nature une autonomie, une perfection indépendante de la grâce, c'est un démenti opposé au Saint-Esprit. La grâce devient alors le moyen qui donne à la nature une sorte de fin supérieure. C'est pour ça que tous les pédants vous diront, il y a deux fins, la fin naturelle et la fin surnaturelle, et il ne faut pas confondre les deux, celui qui dit que l'homme n'a qu'une seule fin, qui est la fin surnaturelle, mélange tout, c'est un gnostique, c'est-à-dire que c'est un chrétien, tout simplement, et il se trouve qu'il faut faire très attention, parce que ça peut mener très loin. Et si vous y tenez tellement, alors je ne vois absolument pas de raison pour laquelle vous ne seriez pas en pleine communion avec François. Parce que son Église est championne dans cette distinction. Et ce n'est pas l'Église catholique, si je dois vous le rappeler. L'homme est réputé capable de vivre selon la nature, de vivre bien selon la nature, même sans la grâce. Et si j'ose dire, même surtout sans la grâce, ce qui est l'assertion la plus ridicule de tout, et qui est la plus ridicule de toutes les illusions de l'homme occidental depuis 100 ans ou un peu plus. C'est-à-dire comme si il avait jamais existé un homme vivant dans l'état de nature. C'est-à-dire, quel que soit le sens plus ou moins complexe qu'on attribue à ce mot, à cette expression, comme si il pouvait y avoir un homme vivant bien, ou comme s'il avait existé un homme, une société d'hommes vivant bien, abstraction faite des influences de la grâce ou de la religion, même de la fausse religion. Il y aurait bien des choses à dire. C'est une des choses les plus ridicules, et pourtant, personne, tous ceux qui professent cette distinction se croient les gens les plus sérieux du monde. C'est absolument ridicule, c'est ridicule, ridicule, ridicule. Écoutez, vous êtes ridicule comme maritain, et c'est tout dire. Donc, c'est le mauvais témoignage apporté à l'Évangile, qu'on commence tout d'abord par démentir le Saint-Esprit sur le point du péché. Ensuite, démentir le Saint-Esprit sur le point de la justice. Et vous savez déjà ce que je vais dire, mes très chers frères. L'œuvre du Christ, par ces chrétiens-là, l'œuvre du Christ au calvaire, est secrètement méprisée. Vous voyez, il y a des théologiens, je n'entrerai pas dans les détails parce que ça pourrait faire frémir, mais il y a eu des théologiens qui vous diront que quand on analyse la manière dont Dieu sauve, justifie le pécheur, bon, jusque-là, les termes sont orthodoxes, eh bien, on se dit que, d'une certaine manière, le Christ aurait pu opérer la rédemption d'une manière moins dramatique, pour ne pas dire plus propre. Vous voyez, d'une certaine manière, il y a un peu comme une sorte de drama qui est surjoué ici pour, bon, pour nous faire comprendre, pour nous faire mieux apprécier. Mais la réalité, c'est que le Christ aurait très bien pu nous sauver autrement. Alors, à ces théologiens-là, je dis simplement ceci. Comment osez-vous blasphémer de la sorte et vous croire plus sage que le Verbe éternel de Dieu, que la sagesse incarnée, qui a dit qu'aucun trait de l'être ne passerait avant qu'il ait tout accompli, et dont les pères disent qu'il n'y a pas une seule action qui n'ait été nécessaire à notre salut. Et pourtant, bien souvent, on dit, voilà, dans l'absolu, le Christ aurait pu nous sauver en versant son sang, mais d'une façon moins dramatique. Attention, s'il ne l'a pas fait comme cela, c'est qu'il ne voulait pas le faire comme cela, et s'il ne voulait pas le faire comme cela, c'est qu'il était nécessaire que nous fussions sauvés de la manière dont il nous a sauvés. La notion de rédemption, évidemment, est par là même ramenée à presque rien. Le rachat à qui ? Au diable ? Bien sûr que non. Alors non, c'est l'erreur des originistes, etc. D'accord. Mais le rachat à la colère de Dieu ? Alors encore plus, non. Ça donne quelle idée vous donnez de Dieu ? Un Dieu en colère qui ne pardonne que en faisant souffrir son Christ, son Fils. Mais comment c'est possible ? C'est presque un blasphème. Des choses qu'on entend très couramment chez les néo-catholiques. Mais aussi, on l'entend en quelque sorte en sourdine chez les autres. Néo-catholique, chez les traditionalistes. Vous voyez, cette notion de rédemption est ramenée presque à rien. Le Christ, dans le fond, comme disait une créature de la néo-église, le Christ est venu nous parler de l'amour de Dieu, et puis ça a mal tourné, les hommes l'ont tué, etc. Mais c'est bête, les hommes sont méchants, ils l'ont tué, et puis comme il est un peu bébête, il s'est laissé tuer comme ça pour qu'on comprenne qu'il nous aime. On comprend strictement plus. Évidemment, vous ne comprenez plus rien, ce n'est pas l'évangile. Voyez-vous, mes très chers frères, le Christ est venu parler de l'amour de Dieu, pas du tout. Il est celui qui a accompli la réconciliation avec Dieu, de l'homme déchu avec Dieu, par le versement de son sang et par le brisement de sa chair et de son cœur. Voyez-vous, mes très chers frères, le Christ n'est pas venu pour nous parler de l'amour de Dieu. Le Christ est venu comme le fils du propriétaire de la vigne pour recueillir les fruits en leur saison. Or, sa vigne, non seulement ne portait pas de fruits, mais elle ne confessait pas que sans lui, elle était incapable de porter des fruits. Je condense la doctrine, la vraie doctrine. Il est venu, et les siens ne l'ont pas reçu. Voyez-vous, mes très chers frères, il est venu recueillir les fruits de sa vigne, et les ouvriers de la vigne ayant rejeté et crucifié le fils du propriétaire de la vigne, eh bien, il a donné la culture de sa vigne à d'autres qui en porteront des fruits, qui devaient en porter des fruits dignes, de dignes fruits. Sa vigne n'a pas confessé que sans lui, elle était incapable de lui, car elle était dans la propre justice. La justice de Dieu ne se satisfait que par le sang de l'agneau immolé, le sang de la victime innocente, une victime pour un pécheur. C'est un thème absurde et un thème barbare aujourd'hui, même si on parle encore du saint sacrifice de l'autel, du sacrifice de la croix, mais on aurait presque l'impression que les protestants ont raison quand ils disent que les catholiques s'imaginent qu'ils sacrifient tous les jours le Christ une nouvelle fois, de telle sorte que le Christ n'est pas mort une seule fois sur la croix, mais il est mort des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, des millions de fois. C'est faux, bien entendu, car la liturgie nous transporte au pied du calvaire et elle nous fait participer de l'unique sacrifice. Mais il se trouve qu'il y a une manière de noyer le sacrifice du Christ qui consiste à parler du saint sacrifice de la messe tout en minant ou en vidant de son contenu la doctrine de la rédemption par le sang. Cette satisfaction de Dieu par le sang est un thème absurde, barbare pour plusieurs, d'ailleurs, bien souvent, inutile, car au mieux, le Christ est venu, selon eux, pour rendre plus facile l'obéissance à la loi naturelle. Dieu ne peut pas être injuste au point de rejeter un homme qui aurait obéi toute sa vie à la loi naturelle. Donc, le Christ ne vient que pour faciliter cela, parce que c'est quand même assez difficile, c'est vrai. Mais si on le fait, Dieu accepte, et comme beaucoup de gens sont un peu paresseux ou un peu faibles, eh bien, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Bravo, c'est Pélage, vous êtes condamné. Vous êtes hérétique. Il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Il y a une troisième manière de démentir le Saint-Esprit dans ce faux témoignage qu'on rend à l'Évangile, quand on mine la doctrine du jugement. Tant que l'on est du bon côté du manche, vous savez, on ne craint pas tellement le jugement. Tant que on est... non nunacum, ou tant qu'on est de la tradition, comme on dit absurdement, tant qu'on critique le pape, ou alors celui qui n'est pas pape, ou le non-pape, ou alors celui qui pourrait être pape mais qui n'est pas pape parce qu'en fait il n'est pas encore pape, parce qu'il est, il est pas, bon, bref, on comprend. Donc tant qu'on est dans l'opposition, le bon Dieu nous reconnaîtra pour sien. Et puis personne n'a condamné, donc du coup il se trouve que en fait à peu près tout le monde, le bon Dieu reconnaît à peu près tout le monde pour sien. Et puis quand bien même il y a l'ignorance invincible, et puis quand bien même il y a les œuvres de la loi naturelle, et puis quand bien même il y a la bonté de Dieu. Attention de ne pas être rigoriste, etc. Donc voyez-vous, mes très chers frères, d'une manière ou d'une autre, la doctrine du jugement du Saint-Esprit concernant le jugement est totalement tombé en désuétude. Qui est-ce qui redoute encore le jugement dernier, à part quelques scrupuleux qui le redoutent pour de mauvaises raisons? Voyez-vous, mes très chers frères, il y a une insouciance extraordinaire vis-à-vis du jugement dernier. On n'y croit guère, ou alors on le perçoit comme... on le perçoit à titre de vengeance personnelle. C'est-à-dire, quand le bon Dieu va venir, quand le Christ va venir, ça va barder et... Vous voyez, on croit que le Christ nous fera régner avec lui par reconnaissance de tout ce que nous aurons fait pour lui. Ah, c'est quand même grâce à nous qu'il va régner, pour qu'il règne, ils l'ont découronné, pour qu'il règne. Ah, merci, entrez dans la joie de votre éternel débiteur, mes fidèles serviteurs, ou plutôt mes fidèles parrains, venez, prenez ma couronne, puisque je vous la dois. C'est ça l'Évangile, mes très chers frères, lorsqu'il n'y a rien de plus terrifiant que la doctrine du jugement dernier, lors de la séparation qu'on trouve dans l'Évangile, lors de la séparation des brebis d'avec les boucs, des damnés d'avec les élus, etc. Il n'y a rien de plus terrifiant. Nous ne pouvons pas imaginer le jugement dernier comme étant le triomphe de nos individualités, mes très chers frères. Nous ne pouvons... Si, écoutons la séquence d'I.S. Irée, si à peine le juste est en sécurité, le juste, c'est-à-dire qu'il ne vit pas de sa justice propre, mais de la justice du Christ, le sarment qui porte du fruit, beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, uniquement par la motion de la divine, la vie divine qui passe de la vraie vigne en lui, alors que deviendrons-nous, mes très chers frères, au jugement dernier? Le jugement dernier... Voyez-vous, mes très chers frères, est en quelque sorte annihilé dans l'esprit des christianoïdes, annihilé par cette prétention qu'ils ont d'être du bon côté du manche. On croit aussi, une autre façon de un peu différente, de démentir le Saint-Esprit, c'est-à-dire, et ça c'est beaucoup plus répandu, c'est qu'on croit à une future restauration. D'ailleurs, je subodore que beaucoup de gens s'imaginent qu'après François, il va y avoir un bon pape. Et donc du coup, les non-nunacum, les nucis, sont en train de dire « Attention, hein, on croyait que vous êtes, on croit que vous êtes pape, mais c'est-à-dire qu'on est réticence, mais on vous reconnaîtra dans la mesure où vous êtes un vrai pape. » Tandis que les autres, ils font la tête, les unacum, ils font la tête en disant « On verra, s'il y a un bon pape, ça se saura, et puis on lui sourira quand il sera là. » Voyez-vous, mes très chers frères, il n'y aura pas de restauration. À aucun moment, il n'y aura de restauration. Pourquoi ? Parce que rien n'a été perdu. Il n'y aura pas de restauration de la Sainte Messe. Qu'est-ce que nous faisons ici depuis le commencement, si j'ose dire ? Nous célébrons la Sainte Messe. L'Église a toujours célébré la Sainte Messe. L'Église a toujours administré les mêmes sacrements. Bien sûr, il y a eu quelques tentatives de modification de la liturgie, etc., de façon monstrueuse, etc., mais Dieu merci, ce sont des choses qui se sont résorbées. L'Église a toujours été la très pure épouse du Christ. Il n'y a jamais eu de fumée de Satan dans l'Église. Ça, c'est un blasphème extraordinaire quand on y pense. C'est un blasphème satanique que de prétendre qu'il y a des fumées de Satan dans l'Église. Il n'y aura pas de restauration. Où voulez-vous que soit restaurée la Sainte Messe alors qu'elle n'a jamais été abolie? Alors vous allez dire, oui, mais dans l'Église, l'Église de François, enfin tous ces gens qui se croient catholiques, qui sont trompés par une hiérarchie, etc. Déjà, ils sont moins trompés que vous l'imaginez, parce qu'ils aiment absolument la religion dans laquelle ils sont. Et ensuite, c'est « Ah, mais si vous parlez de cette Église-là, vous parlez de la gentilité apostate, alors vous parlez de la grande apostasie, vous parlez de des branches qui ont été retranchées et qui ne seront jamais réhantées. » Il n'y aura pas de restauration. Mais très chafin, il n'y a pas de restauration à attendre. Je sais que ça va en étonner plusieurs, sinon ici, du moins ailleurs, mais il n'y a pas de restauration à attendre. Bien sûr, nous sommes dans un état, l'Église est dans un état presque exsangue, elle est dans un état très faible, elle est presque morte, elle est dans un état de très grand délabrement, ça c'est vrai, mais c'est l'Église. Il n'y aura pas de restauration, car si vous espérez qu'il y aura une restauration, alors, en fait, vous êtes des gens qui piétinez sur le seuil d'une salle de fête où normalement on devrait faire la fête, mais là pour l'instant on fait autre chose. Donc vous attendez, entre-temps vous faites votre petite fête, vous avez sorti votre petit sachet de cacahuètes, etc. Et puis sur la margelle, vous êtes là en train de manger vos petites cacahuètes avec votre petit champomis, etc. Et puis vous dites, on fait ça en attendant parce que en fait on supplée au fait qu'on ne boit pas du vrai champagne, etc. Là, et donc on fait n'importe quoi, là pour l'instant c'est la bamboula dans la fête, mais nous on fait truc, et puis j'espère que ça va retenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous allez dire, c'est le traditionalisme, évidemment. Mais très chers frères, il n'y aura pas de restauration, il n'y a pas de restauration à attendre, parce qu'il n'y a rien qui nous a été enlevé. Rien ne nous a été enlevé. Il y a un jugement sur la gentilité apostate qui fait que ceux qui attendent une restauration seront enveloppés dans les raies de l'Antéchrist lorsqu'il viendra. Le jugement sur la gentilité apostate n'a ni pardon, ni restauration à attendre. Certains individus peuvent s'échapper encore, ça c'est vrai. Mais cette institution, cette chose qu'on appelle la néo-église, ne redeviendra jamais catholique. Tous ceux qui lui sont attachés, même de façon imaginaire, seront enveloppés avec elle dans le jugement terrible qui l'attend. Nous nous désintéressons de son sort, nous disons à ceux, nous, les ecclésiastiques de l'Église, nous disons, de la vraie Église, des pasteurs légitimes, nous disons, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone, convertissez-vous. Nous le disons à des gens qui nous comprendraient peut-être un peu mieux que des gens qui seraient d'autres fausses religions et qui auraient besoin d'avoir beaucoup plus. Mais nous disons, sortez, ne soyez pas enveloppés dans le jugement qui l'attend. Soyons donc prudents, mes très chers frères. Nous terminons très brièvement par un troisième point. Saint-Pierre nous dit... Saint-Jacques, pardon, nous dit, vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prenons-en quelques enseignements pour nous aujourd'hui, qui devons rendre témoignage à l'Évangile par notre station dans l'ordre, selon notre état, dans un silence fructueux. Que chacun soit empressé à écouter. L'Église, à écouter l'Église, et non les mercenaires, les pasteurs, et non les faiseurs de pasteurs, les intrigants, les magouilleurs dans l'ombre qui cherchent à se doter d'un clergé à son goût, d'un clergé fortifié, d'un clergé rembourré, d'un clergé en quelque sorte avec un supplément d'âme, en tout cas pour ceux auxquels ça plaît, parce que pour les autres, il ne faudrait pas leur donner l'impression que la formule a changé. Donc voyez-vous, mes très chers frères, écoutez les pasteurs de l'Église, soyez prompts à écouter. Et soyez donc prompts à détourner l'oreille des faux pasteurs, des mercenaires, des loups déguisés en brebis, en réalité. Soyez prompts à écouter la parole de Dieu enseignée par les pasteurs légitimes, qui savent qu'ils sont les pasteurs légitimes et qui ont été donnés à l'Église par des pasteurs légitimes pour être des pasteurs légitimes. Soyez prompts à écouter, lents à parler. Celui qui sait, mes très chers frères, a plutôt tendance à se taire. Le type qui a fait une journée d'école de métier va vous discourir sur le métier à table, il va dire, ah, voilà, le métier, c'est ça et l'autre. Le maître, qui est passé maître dans ce métier, a plutôt tendance à se taire, parce que d'une part, il n'a pas envie de profaner ce qu'il sait, d'un autre côté, il sait que tout est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer, et d'un autre côté, il sait aussi qu'il y a des gens qui voudraient bien avoir des éléments pour faire des contrefaçons. Soyez lents à parler. Celui qui sait se tait, plutôt tendance à se taire. Je ne dis pas qu'il faut se taire absolument, mais plutôt a tendance à se taire. Il ne parle qu'avec parcimonie, il ne parle que forcé de rendre témoignage. À toute occasion où nous devons rendre témoignage, nous devons rendre témoignage. Mais uniquement lorsque la Providence nous y invite, et pas quand on saisit son micro et sa caméra et on rend témoignage devant virtuellement 8 milliards d'individus et devant lesquels il y aura moyen après de dire, vu le travail qualitatif que je fais, hein, comme on dit grossièrement avec le faute de français, vu le travail qualitatif que je fais, c'est le moment d'avoir un petit retour de billet, mon compte Tipeee, PayPal et autres machins, vous voyez, tout ces, dans, le lien est dans la description. Non, voyez-vous, il est lent à parler. Soyez lents à parler, mes très chers frères. Soyez très lents à parler. Le chrétien qui rend témoignage véritablement à l'Évangile se défie de lui-même et de ses propres paroles. Et puis, Saint Jacques nous dit aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui, mes frères, car vous êtes dans l'ordre. Soyez aussi lents à vous mettre en colère. Devant le spectacle de la confusion qui augmente, devant le spectacle des nucistes qui marchent sur la tête, devant le spectacle des faux catholiques, des faux pasteurs, devant le spectacle des pirates, des mercenaires déguisés en pasteurs, des pirates déguisés en honnêtes commerçants, etc., il y a de quoi se mettre en colère, mes très chers frères. Mais soyons lents à nous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu rattrapera tous ces gens-là. Et tout ce qui nous importe, c'est que nous ne soyons pas enveloppés avec eux par la méchanceté de notre cœur que nous aurons suivi, même si c'est sur une autre voie que la leur. Mes très chers frères, entrer dans la lice sans y avoir été appelé, c'est d'être happé par la colère qui vient. La seule chose à faire, mes très chers frères, c'est cela. Rejetant toute souillure et toute poussée du mal, recevons avec docilité la parole qui a été hantée en vous et qui peut, si Dieu le veut, sauver nos âmes. Seigneur, sauvez-nous de votre colère, sauvez-nous de la colère et du jugement à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.